Kiosque Magazine.
Bon matin tout le monde, vous êtes bien à Kiosque Magazine ce matin, ce vendredi 29 mai. Déjà le mois de juin qui approche, on a le mois de juin qui arrive dès lundi matin. Et vous êtes avec vos animateurs Jean-Philippe Vachon et Charles Roy. Bon matin Charles.
Bon matin, ça va bien?
Ça va très bien. Bien content, c'est ma première quand même cette semaine.
Oui, bienvenue à l'émission.
Merci.
Je suis content que tu sois là.
Je suis content d'être là aussi. J'étais bon, pour ceux qui me reconnaissaient peut-être, j'étais déjà à Kiosque il y a déjà un an.
Oui.
Ah, ça passe vite,
c'est terrible. Ça fait du bien de revenir.
Ça fait du bien, oui, exactement. Et on parle aujourd'hui de culture et de loisirs. Mm-hmm. Charles, tu as plusieurs sujets pour nous ce matin?
Ben oui, je vous parle de deux spectacles au FTA. Je vais vous parler aussi de Kent Nagano et de son spectacle La Valkyrie, qui sera en reprise ce soir et demain à la Maison symphonique. Je vous amène à Sutton, où une grange a été convertie en centre de création internationale multidisciplinaire.
Wow.
À Sherbrooke, un festival de poésie. Je crois que tu nous parles aussi d'un festival de poésie.
Oui, hein, c'est plus près de chez nous, par contre, c'est à Montréal.
Oui, et aussi à Québec, je vais vous parler d'une exposition au Musée de la civilisation qui met en valeur l'Égypte.
Excellent. Moi, je vous parlerai d'art visuel aussi sur le coup de l'émission. On parlera aussi ensemble de cinéma, parce que l'été, on sait que c'est une période très, très féconde dans le cinéma.
On va dire ça comme ça. Aller à l'air climatisé.
Exactement. Le soleil, c'est bien fun, mais des fois, un petit peu d'air climatisé, ça fait du bien. Je vous parlerai aussi des francophonies de Montréal, parce qu'on a dévoilé la programmation extérieure complète cette semaine, alors on en reparlera. Mais avant ça, je vous parlerai d'Alex Nevsky. Une grosse année pour lui, et on aura la chance d'en parler dans les prochaines secondes ensemble. Alors oui, on parle d'Alex Nevsky ce matin. C'est dans le cahier week-end du Journal de Montréal du samedi 23 mai passé. Une nouvelle vie qui commence pour lui. Alors, il était quasi inconnu du grand public il n'y a même pas si longtemps que ça. Alex Nevsky qui est devenu, en quelques mois, la nouvelle coqueluche des Québécois. On le voit partout. On l'a vu à la voix. Bon, on l'a vu dans tous les festivals l'année passée. Et encore cette année, ça pourrait être encore une année très importante pour lui. Et tranquillement, ben, il a pris voir cette industrie qu'il a longtemps jugée. Et, donc, c'est un portrait d'un homme plein de contradictions qu'on retrouve dans le Journal de Montréal, donc du cahier week-end de la semaine passée. C'est un article d'Élisabeth Ménard. Et il faut dire que le temps passe vite également. Himalaya, mon amour, qui est sorti il y a déjà près de 2 ans. Alex Nevsky qui commence à préparer la suite des choses, mais les projets sont plutôt nombreux, plutôt ambitieux également. Il y a plusieurs petits projets en tête déjà. Et malgré son succès, il faut penser à ce qui se passera après, parce que tous les artistes sont pas comme des Charles Aznavour, encore debout et acclamés après 80 années d'expérience. Alors, quelque part, il faut aussi préparer la suite des choses. Et c'est sûr qu'il y pense actuellement. Bon, dans le Journal de Montréal, il a fait une petite blague en disant que si jamais la musique marchait plus, il pourrait devenir escorte mâle. On sait jamais. Danser, ben ça fait de l'argent. C'est sûr que sa mère serait pas bien ben contente. C'est comme ça qu'il en parle. Mais en vérité, ce qu'il aimerait faire, surtout, c'est d'écrire pour les autres. Il a découvert qu'il était capable d'écrire des chansons autant en anglais, autant en français. Mm-hmm. C'est universel. Pas besoin de barrière de la langue pour faire ça. Alors, c'est ce qu'il mentionne dans le Journal de Montréal. Et il tient aussi, il tient évidemment au français, c'est sa langue maternelle, mais il veut s'exprimer surtout dans d'autres langues, voyager, explorer différentes choses plutôt. Bon, avant ça, évidemment, il va lancer son deuxième album, Himalaya, mon amour, en France dès le mois de septembre. Alors ça, je pense que ça va être une très grosse étape pour lui, évidemment. Bon, il se fait pas d'idée. Il a une petite équipe là-bas qui travaille très, très bien. Et ce lancement qui surviendra d'ailleurs 2 ans après la sortie au Québec de l'album. Et ben, il doit embarquer aussi dans la création de son troisième album en même temps, parce que c'est ce qu'il veut faire. Il veut travailler là-dessus déjà. Alors, il a hâte de faire ça. Il a déjà des petites idées en tête de vouloir faire des trucs plus électro, mais en même temps, sans tomber dans les années 80, comme plusieurs artistes ont fait dernièrement. Alors déjà, il a mille et une idées, c'est comme ça qu'il en parle, et musicalement, il a vraiment envie d'aller vers un son un peu plus moderne. Pour ce qui est des textes, il dit vouloir aller plus loin aussi. Il a envie de se creuser un peu plus, de sortir du « je me moi », d'aller un peu plus vers le « nous ». Donc c'est ce qu'il explique aussi dans cette entrevue-là. C'est d'aller au-delà de ça et de changer le point de vue, autrement dit d'essayer d'être observateur. Il pense que c'est ça sa job, d'essayer d'être un peu plus incisif tout en étant poétique. Et chose intéressante à savoir, c'est qu'Alex Nevsky a aussi rencontré Luc Plamondon pour discuter de chansons. Alors l'avenir peut être très prometteur pour lui. On espère pour lui qu'il aura peut-être une collaboration avec lui. Et entre le lancement en France, le troisième album et tous ses festivals cet été, il espère aussi pouvoir sortir un album instrumental de piano pour l'automne. Mm-hmm. Il aime beaucoup faire du piano. Il voudrait réaliser ça. Ce serait avec le réalisateur de son deuxième album, Alex McMahon, encore une fois. Alors, le moins qu'on peut dire, c'est qu'Alex Nevsky a des idées pour se garder occupé pour les prochaines années. Et puis, sa carrière d'escorte mâle, on peut dire que ça peut attendre un petit peu.
Oui, c'est ça. On n'est pas prêt de voir ça.
On n'est pas prêt de voir ça. On l'écoute d'ailleurs en musique à l'instant. Papa, on s'est démaquillé. On a mis du fard sous nos joues.
s'est éteint, déraciné. On a mis du soir sur nos joues. On s'est soumis, on a plié. On a mis le mort à nos bouches. On s'est pourri et baïonné. On a mis la mort. On s'est fait sacré sans mettre nos corps sous les clous. On s'est fait but et pour briller, on a mis de l'or à nos coups. On s'est repeint, remaquillé, on a mis du phare.
On vient d'entendre, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? C'est quoi déjà le titre?
On leur a fait croire.
Ah, merci, j'allais l'oublier. On leur a fait croire de Alex Nevsky. Ben, on s'en va tout de suite en musique. On continue en fait, mais avec Kent Nagano, c'est un autre genre. L'article dont je vais vous parler s'intitule Wagner Nagano, flamboyant. Rien de moins, c'est Christophe Oz dans Le Devoir qui nous en parle. Ça a été publié le 28 mai. Kent Nagano est un personnage et un artiste parfois difficile à cerner. Mais mercredi soir, à la Maison symphonique, il s'est réellement livré avec sincérité et sans fard. Une chose apparaît désormais évidente, Wagner, c'est son jardin secret, son vrai trip. Et c'est pour cela que ce concert restera comme l'un des points culminants de son passage à Montréal. Et ce spectacle, La Valkyrie, est aussi en reprise ce soir et samedi à 20h à la Maison symphonique. Le concept visant à présenter isolément le premier acte de la Valkyrie date de l'époque même de Wagner. Programmer un acte d'un opéra de Wagner pour clore une saison était même devenu, pour certaines institutions symphoniques, une forme de signature. Le bloc d'un peu plus d'une heure est tout à fait présentable en concert. En décor, on n'a qu'à s'imaginer une hutte et un frêne, car il requiert uniquement 3 solistes. Dans l'histoire du Ring, cet acte présente le personnage de Siegmund, le fils de Volan et d'une mortelle, et décrit sa rencontre avec Sieglind, sa sœur jumelle, mariée de force au guerrier Unding. Eh bien, cette sœur, éduquée comme un reclus marginal, ne connaît pas sa... Non, c'est son frère qui ne connaît pas sa sœur, enlevée après le meurtre de leur mère. Mais il se voit retrouver et se reconnaître durant cet acte où Siegmund trouvera chez sa sœur la fameuse épée promise par son père. Nagano s'est entouré de chanteurs aguerris, La plus surprenante fut Eddie Melton, qui a su travailler avec Zeglind et avec un metteur en scène ou un chef particulièrement inspirant. Elle connaît visiblement le moindre recoin des états d'âme du personnage, qu'elle chante avec un coffre impressionnant, mais aussi une intelligence rare. Cette incarnation majeure, assurément, est dans le top 3 mondial actuel. Pour parchever la soirée, Nagano a dirigé en bi la chevauchée des Valkyries avec la même science des éclairages, la même noblesse des fortissimo, les mêmes arrêtés et la même énergie dans son mémorable premier acte. Donc, en reprise ce soir et samedi à 20h. Cette fois-ci, Jean-Philippe, tu nous amènes dehors pour les francopholies.
Exactement.
Ou en dedans,
et...
ça dépend.
En fait, on va aller surtout à l'extérieur pour cette fois-ci parce que bon, on savait déjà que la programmation intérieure était déjà annoncée depuis quelques mois. Mm-hmm. Et là, cette semaine, on a annoncé la programmation extérieure et ça, c'est souvent le moment où la plupart des gens font « OK, là, je planifie mes vacances, on s'en va au Franco cette année ». Et ben, c'est quand même une belle programmation cette année. D'ailleurs, c'est dans un article de Philippe Papineau du journal Le Devoir que je vais vous en parler. Alors, on appelle cet article-là « L'audace est dehors ». Alors, ça vous donne une idée déjà. Bon, à chacun ses goûts musicaux, ses lieux de fête de prédilection. La programmation en salle des prochaines Francophonies Montréal, qui se dérouleront, je vous le rappelle, du 11 au 20 juin prochain, joue comme d'habitude une relative et compréhensible prudence. Alors, par contre, en regardant la programmation extérieure annoncée mardi, c'est dehors que se retrouveront encore une fois cette année les projets et les artistes les plus bouillonnants et les plus stimulants. C'est comme ça qu'on en parle ce matin. Bien sûr, les grands spectacles quotidiens gratuits, maintenant ancrés dans les habitudes des festivaliers, visent un très large public de tous les genres également. On a des soirées plus tranquilles, des soirées plus mouvementées. Et c'est pas nécessairement déconnecté du son du moment non plus. La preuve, c'est à Radio-Radio que sera confié le spectacle d'ouverture de jeudi le 11 juin. Le duo électro-rap qui sera précédé de Pierre-Paul Jacques, de Pierre Quenders et d'Alpha Rococo également. Alors, ça va déjà toucher un peu plus de styles également différents dans la soirée d'ouverture. Une autre preuve également, c'est que les Franco ont confié au rappeur Corias et à son gros orchestre son premier vendredi soir. Alors, on aura droit à un concert hommage au bébé également pour les nostalgiques et aussi à Jerry Boulet et donc à la musique de Michel Rivard pour clore cette 27e édition des Franco. Il y a aussi une autre présence de Vincent Vallière à la place des festivals, mais les Franco proposeront aussi les Sœurs Boulet, Alex Nevsky, Arthur H. et Bookman XP Arianzas. Alors, vous pardonnez sa prononciation, il vient d'Haïti aussi également. Alors, il y aura encore plus de gens stimulants sur ces petites scènes disséminées dans le quartier des spectacles avec une règle non dite et approximative. Plus il est tard, plus les noms sont reconnus et plus la musique est rythmée également. Alors, les tranches de concert de 17h, 18h, 19h pour vérifier, il y a toute la scène multiculturelle qui s'y retrouve là-bas pour faire mentir la théorie, mais aussi les festivaliers pourront découvrir Safia Nolin, le duo Saratoga de Michel-Olivier Gasse et Chantal Archambault. Il y aura aussi le français Julien Doré, le belge Antoine Chance également. Il y aura des gens du Nouveau-Brunswick. Bref, vraiment une belle variété. On aura aussi droit à Sally Folk, évidemment, donc qu'on a découvert tout récemment. Là, on l'aime beaucoup, Sally Folk, au Québec. Je pense que...
Je la connais pas, moi, du tout.
Tu la connais pas du tout?
Peut-être qu'on pourra faire jouer une musique de elle, si on en trouve une.
Excellent. On s'en reparle tout à l'heure. Et autour, après le coucher du soleil, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on branche les amplis et surtout, on allume les laptops et les platines. Il y a, entre autres, pour les deux séries, les soirées urbaines et les nuits urbaines, le jeune et sympathique duo de rap français Big Flo Oli, que je ne connais pas, qui vaut quand même un détour. Alors, pour ceux qui ne les connaissaient pas, peut-être que, comme moi, vous allez être surpris par cette performance-là. Il y aura aussi la pop assumée de La Bronze, qui est une chanteuse québécoise très prometteuse, et les dires de la case horaire de 23h aussi, qui verra défiler Tactica, Dead Hobbies, Bougat, À la Claire Ensemble et Samian également. Alors, une belle programmation pour les francopholies, je vous le rappelle, c'est du 11 au 20 juin prochain. Ça se passe au quartier des spectacles ici à Montréal. Il y a plusieurs spectacles en salle déjà qui avait été annoncé. Évidemment, je n'ai pas la liste exhaustive. Je vous inviterai à aller regarder ça sur Internet, sur le site desfrancophonies.com. Et on se retrouve tout de suite après cette petite pause instrumentale.
Ne rentre pas ce soir, je n'ai rien de beau à dire, rien de bon à te dire. À chaque fois où tu viens près de moi dans cet état, je n'ai rien de beau à dire. Vaut mieux ne pas se voir, je te crierai des bêtises. Tu sais que je supporte mal que tu préfères les effeuilleuses au lieu d'être ici. Et tu me manques, mais ne rentre pas. je ne veux pas les sentir. Tu travailles tard, oui, j'effacerai les fautes de sur tes chemises. Va faire un tour chez celle qui t'a pendu de ses charmes ce soir.
Vous venez d'entendre Ne rentre pas ce soir, un extrait. C'est donc elle, Sally Faulk.
C'est donc elle, Sally Faulk, et voilà.
Bon, ben tant mieux. Merci beaucoup de cette découverte.
Ben, ça fait plaisir.
Et puis, maintenant, on s'en va au Festival Transamérique qui a commencé il y a tout juste quelques jours et qui est encore là pour tout le début du mois de juin. Je vous parle d'un spectacle qui s'appelle Fausse. En fait, c'est Frédéric Doyon dans Le Devoir qui nous en parle. Il titre son article « L'artiste alchimiste ». C'est un spectacle dont la première est ce soir jusqu'au 31 mai au studio Vertigo O à la Place des Arts. Stéphane excusez-moi, je vais essayer de ne pas écorcher son nom.
Prends ton temps.
Oui, je vais prendre mon temps. Stéphane Gladsiwski, merci, est un peu alchimiste contemporain. Entre art visuel et danse, il déploie une technologie sensible et poétique en mettant le corps au cœur de ses œuvres. La matière avec laquelle il aime jouer sur scène revêt souvent une aura, un brin métaphysique. Après l'intimiste tête-à-tête, performance pour un spectateur à la fois, le chorégraphe crée Fausse au Festival Transamérique, forme d'hommage à la photographie qui fut son premier mode d'expression artistique et à la matière lumineuse avec laquelle il ne cesse de nous émouvoir. Cette fois, il y aura foule, 40 spectateurs à la fois. C'est le joli compromis entre l'intimité qu'il privilégie et la masse critique qu'il permet à l'œuvre de devenir collective. « Je veux inviter les gens à vivre une expérience plutôt qu'à assister à un spectacle », dit-il. Le public participera d'ailleurs plus activement à la dernière section de Fausse, qui déploiera une forme de peinture techno-organique en direct avec la connivence de deux interprètes, Lucie Vigneault et Martin Bélanger. Ben, ça pique ma curiosité parce que ben, M. Doyon, dans son article, n'en parle pas plus longtemps. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, une fresque techno-organique.
Alors, pour le voir, il faut aller le voir.
Exactement. Comme toujours, chez cet artiste, la proposition esthétique dérive des outils technologiques qu'il développe. C'est assez formel au départ, puis peu à peu, le fond s'en dégage, décrit-il. Ici, deux systèmes ont été mis à profit, outre la technologie de vidéo thermique déjà mise à l'épreuve dans Chaleur humaine et Aura. Le premier consiste en une espèce de lampe grue géante calquée sur la lampe de design italien Tizio. Le second est une baguette lumineuse manipulée par deux danseurs à la manière d'un pinceau. On a conçu la baguette par juxtaposition de DEL, ce sont des diodes électroluminescentes programmables, reliées à l'ordinateur à travers laquelle on peut contrôler la lumière en passant par différentes fréquences lumineuses, explique-t-il. Ça a l'air très savant. Le petit projet de développement technologique qu'il croyait bouclé en 3 mois a finalement pris beaucoup plus de temps. D'autant plus que l'artiste tient à donner une texture fait main, même aux outils hyper technologiques pour rendre ceux-ci plus humains. J'ai l'impression d'essayer de faire danser un éléphant, lance-t-il. C'est comme avoir un nouveau corps. Il faut apprendre à jouer avec, explorer les possibilités et les va-et-vient avec les interprètes. Une gestation des projets pleine de deuil, d'essais et d'erreurs qui lui permettent probablement de capter si finement le mystère des sensations humaines dans ses œuvres, laissant un autre monde advenir. Donc, ce spectacle, je le rappelle, c'est dans le cadre du Festival Transamérique, ce soir jusqu'au 31 mai au studio Au Vertigo de la Place des Arts.
Y a pas que les musiciens qui veillent, y a deux. deux, trois écrivains dans un coin, un comédien. On ne voit plus très bien les étoiles du vaisseau au-dessus du vent. On n'imagine plus la terre que comme un petit grain de sable dans l'univers. D'anges, le verbe n'est plus qu'un geste, et de plus en plus terre à terre, car je m'enterre tranquillement, ne croyant plus aux anges, voyant la beauté dans les angles des créatures qui me ressemblent.
La musique de Claude Dubois avec la pièce Artiste qui nous ramène quelques années en arrière quand même.
Oui, oui.
Et on parlait beaucoup de cinéma cette semaine. C'était le Festival de Cannes, évidemment. On en a beaucoup parlé la semaine passée. Je vous parle maintenant de cinéma parce que l'été s'en vient et aussi parce que des fois, ça peut faire du bien d'écrocher, de pas se poser de questions, d'aller voir un film, de juste se laisser divertir. Et on va parler de cinéma avec des grands titres qui s'en viennent. C'est dans le Journal de Montréal ce matin. C'est un article d'ailleurs de Bruno Lapointe. Il nous parle d'un été extraordinaire, entre guillemets. Ça dépend de tout le monde. Évidemment, on n'a pas tous les mêmes goûts en cinéma. Il y en aura vraiment pour tous les goûts, faut dire, de toute façon, avec cette année. Alors, l'arrivée officielle de l'été qui est prévue que pour le 21 juin, ça c'est vrai, mais déjà avec le soleil de ce matin, je peux vous dire que ça s'en vient rapidement. Là, on a déjà hâte d'aller peut-être s'écraser à l'air climatisé, mais je veux pas dire qu'il fait trop chaud, parce que l'hiver est difficile.
Il faut aller dehors.
Faut aller dehors, exactement. Alors, malgré tout ça, la saison des blockbusters, elle est déjà amorcée, déjà avec le film Avengers, l'ère d'Ultron, qui a commencé au début du mois de mai. Eh bien, ça donne le coup d'envoi à cette saison-ci. À regarder le calendrier des sorties des prochains mois, eh bien, l'offre ne semble pas être sur le point de diminuer, avec au moins une grosse sortie par fin de semaine, on va avoir un été extraordinaire. Et ça, c'est pas moi qui dis, c'est M. Vincent Goudzeau, qui est président de l'Association des propriétaires de cinéma du Québec. Il est vrai que l'été dernier, pauvre en blockbuster digne de ce nom, a laissé un goût amer aux cinéphiles, mais aussi aux exploitants de salles de cinéma. Alors, il y avait des films comme X-Men, Days of Future Past, Guardians of Galaxy, Captain America également. Ils ont fait bonne figure, mais n'ont pas réussi à battre de records comme les années précédentes. Et il est d'ores et déjà facile de prédire quels seront les films qui domineront le box-office tout au long de la saison cette année. Alors, c'est certain que Mission Impossible, le cinquième volet déjà. Il y a aussi un nouveau Jurassic Park qui sera dans les salles de cinéma bientôt. Ça pourrait justement faire en sorte que l'été soit lucratif pour les salles de cinéma. Il faudrait surtout pas non plus sous-estimer le très attendu Minions, alors le dérivé de la série à succès Despicable Me, qui devrait séduire petits et grands, avec des petits personnages jaunes qu'on voit partout, en fait. Oui. Alors, c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui vont aller voir ça également. Il y a plusieurs femmes aussi qui ont également déjà prévu une date importante à leur calendrier, celle du 1er juillet. Les coups de bassin aidé en chemin de Channing Tatum et sa bande devrait attirer bon nombre de membres de la gente féminine aussi dans les salles où sera projeté le deuxième volet de Magic Mike, donc la suite du succès surprise de 2012. Alors, parlant du succès surprise également, il semblerait que l'engouement pour le film Ant-Man, le dernier super-héros de l'écurie Marvel, envahir nos écrans, eh bien, ça pourrait se traduire à un passage très lucratif sur nos écrans. On n'en parle pas beaucoup, on sait jamais, des fois ça peut être assez vendeur. Un super-héros, c'est toujours assez vendeur pour les plus jeunes. Et alors qu'Hollywood avait jadis de l'habitude d'échelonner la sortie de ses blockbusters sur plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, pour éviter qu'il ne se fasse concurrence, eh bien, l'été 2015 va voir, pour sa part, un très grand nombre de méga-productions débarquer sur les écrans semaine après semaine, et ça, c'est sans répit. Alors, pour ceux qui trouvaient qu'il y a trop de blockbusters au cinéma, attendez de voir les prochains mois, ce sera encore pire. On va dire ça comme ça. C'est particulièrement optimiste, évidemment, pour les prochaines semaines. C'est Vincent Goudzot qui voit cet été-là comme étant un des meilleurs probablement depuis les dernières années. Le mois passé, Furious 7, alors vous connaîtrez donc ce film, évidemment, qui est la suite de Rapide et Dangereux, a fait sonner la caisse très fort avec le meilleur week-end d'ouverture de l'année. Alors c'est certain que la table est donc bien mise pour un été tout aussi occupé dans les salles de cinéma de la province. Alors si vous voulez aller voir un film, je pense que vous avez l'embarras du choix.
Pour ceux qui veulent un autre genre de cinéma, il y a des documentaires qui sortent cette semaine. Je vais vous parler de 18 fugitives. C'est un film canadien. En 88, des villageois de Bet Saour achètent 18 vaches pour mettre fin à leur dépendance alimentaire envers Israël. Les bêtes deviennent le symbole de la résistance palestinienne. Ce film est à l'affiche, ainsi que le documentaire Transatlantique, un film canadien aussi. Ce documentaire fait découvrir les tâches quotidiennes, les divertissements et les périodes de repos ou de recueillement des membres de l'équipage d'un cargo traversant l'océan Atlantique. Donc, deux films complètement différents. On se laisse le temps d'une courte pause. On vous revient dans deux petites minutes avec encore d'autres sujets de la culture. À tout de suite.
Écoutez Kiosque Magazine.
On se déplace maintenant à Sutton, où une résidence pour articles et un parc culturel. Deux points, le projet prend forme à Sutton. Excusez, j'essayais de faire une transition en nommant le titre de l'article, mais ça a complètement foiré.
On se déplace à Sutton, ça aussi, par exemple.
Exactement, c'est ça. Ben, en gros, c'est que c'est une grange qui a été acquise par une OBNL et elle va être transformée en centre de création. C'est vraiment intéressant. Mm. Ça a été publié le 27 mai dans La Voix de l'Est. Et c'est Marie-Ève Martel qui écrit. À peine quelques semaines après le lancement du projet, les travaux pour restaurer la vieille grange du 57 rue principale Nord à Sutton vont bon train. La Voix de l'Est a visité le site où naîtra dans quelques mois la résidence pour artistes et le parc culturel imaginé par l'organisme à but non lucratif d'art et de rêve. Au moment du passage du journal, des émondeurs s'affairaient bénévolement à dégarnir les immenses troncs qui jonchent le terrain autour du bâtiment agricole. Les arbres sont ensuite arrachés et le plus gros d'entre eux connaîtra une deuxième vie entre les mains du sculpteur Daniel Haché. Il va sculpter le tronc pour en faire un grand totem qui rendra hommage à tous les bénévoles qui nous aident à réaliser notre rêve. Note Nicole Côté, l'une des trois artistes derrière l'organisme. La maison de la famille Lusignan-Després, qui possédait aussi la grange et le terrain de 6 acres acquis le mois dernier par l'OBNL pour la somme de 225 000 $ devrait être démoli au cours des prochains jours. La disparition de la maison permettra cependant une vue imprenable sur l'immense domaine et sur la grange qui, après restauration, aura fière allure, dit-on. « Ça fait 42 ans que je vis à Sutton et je ne l'avais même pas vue », lance Mme Côté. Le bâtiment conservera son essence, alors que les chambres qui accueilleront les artistes en résidence seront bâties et aménagées à même les stalles des chevaux qui y dormaient autrefois. Ça fera un autre genre d'écurie, finalement. Le grenier tout en hauteur pourra, pour sa part, accueillir des artisans du cirque. Le recyclage ne s'arrête pas là. Les outils agricoles entreposés dans la grange bénéficieront eux aussi d'une deuxième vie en devenant des sculptures et des supports à vélo. On prévoit accueillir les premiers résidents l'an prochain. Ensuite, des artistes du monde entier pourraient séjourner à Sutton, tandis que le site qui comportera un parc et qui sera le théâtre naturel du Symposium international de sculpture de Sutton, en août, sera ouvert à tous. L'objectif, c'est de permettre aux artistes de s'associer et de créer ensemble. C'est multidisciplinaire et c'est vers là que les artistes s'en vont, croit Mme Côté. Et Sutton, réputé pour être le nid de créativité, est l'endroit idéal pour que se concrétise un tel projet. C'est le lieu idéal pour l'art, mais il n'y avait pas d'endroit pour le réaliser ensemble. Notre grange va peut-être devenir ce point de rassemblement, ajoute-t-elle, et ce n'est que le début, donc à suivre à Sutton.
Moi j'ai confiance qu'on peut sortir, qu'on peut marcher encore. Moi j'ai confiance qu'on peut parler, qu'on peut être bien dehors. Moi j'ai envie d'être en vie, de parler encore plus fort. Et d'être avec mes amis qui me parlent des rivières du Grand Nord. Des grands torrents qui s'en viennent pour soulever, couler les champs. Mouiller les dents, noyer les larmes qui recouvrent nos parents. Mouiller la peur des caresses qui donnent peu en demandant. Foutre le bordel dans les lits qui pleurent d'être morts en bonnant. Viens, prends ma main, je te donne la mienne. Sans peine, on part, on va plus loin. Ça sert à rien de fixer les traces derrière nos pas sur la fine glace. J'ai enfin retrouvé mes patins. Remets les tiens, je te donne la main. La vie est belle une fois chez elle. Chaud dans ses bras, je n'ai plus peur d'elle. Chaud dans ses bras, même si on gèle. Vieux avec elle, je t'offre mes ailes.
On vient d'entendre Philémon Simon. Moi, j'ai confiance qu'il sera probablement au Francofolie, je ne sais pas.
Ben, je confirme d'avoir vu son nom, mais oui? La case okay. Rage, aucune idée, par exemple. Et c'est un artiste que je ne connaissais pas, alors c'est un matin de découverte musicale.
Ben oui, tout à fait.
Excellent.
Ben, on s'en va tout de suite en continuant en découverte, en fait, parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait ce festival-là de poésie à Montréal.
Oui, c'est la 16e édition du Festival de la poésie de Montréal et c'est depuis lundi passé, le 25 mai. Ça se termine ce dimanche 31 mai. Et on en parle ce matin dans le journal Voir. C'est un article de Julie Ledoux, dans le fond, qui nous parle de ce festival-là. Alors, ça s'étend sur une semaine avec une programmation où le Luxembourg, le Japon, le Québec, les intersections entre les langues, les mêmes, la vidéo-poésie se rejoindront. Alors, il y en a pour tout le monde. On peut regarder ça comme ça. Alors, cette nouvelle édition du Festival de poésie de Montréal démarrait ce lundi, rappelant les liens étroits entre la poésie et le quotidien. Il y a plusieurs événements qui marquent le pas de la 16e édition qui sort ses plus beaux atouts cette année pour faire découvrir les beautés du haïku ou encore les intersections et dissensions entre la poésie de langue anglaise et française. Alors, il y a deux événements qui entourent le pays du soleil levant et le genre littéraire qu'est le haïku qui sont prévus au programme d'ailleurs pour cette 16e édition. Alors, tout d'abord, il y a un triple lancement qui aura lieu ce soir, aujourd'hui, le 29 mai, à la librairie Bonheur d'Occasion, Kukai, une aventure poétique, d'André Vézina aussi et Janine Saint-Armand. Il y a aussi Soupçons de lumière de Daniel Delorme des éditions Tirveille et Suçons et Ridlis Rouge de Marie Dupuis qui seront lancés avec quelques lectures des auteurs également. Demain, le 30 mai, il y a un atelier pour apprivoiser l'art du haïku qui sera animé aussi par Francine Chiquan au Centre de services communautaires du monastère également. Histoire de capturer l'essence même de cet art de vivre et genre littérature également. Plus tard aussi, en après-midi, samedi toujours, la librairie Bonheur d'Occasion renouvelle son intérêt pour le haïku avec une table ronde qui sera consacrée à cette tradition japonaise, son renouvellement aussi et ses différentes pratiques au Québec, mais aussi au Canada, en compagnie de Michel Plot, Francine Chiquan, encore une fois, Marie Clark et Joanne Morancy. Il y a aussi le retour en fait du marché de la poésie. Ça, c'est très intéressant en fait pour ceux qui n'y sont jamais allés. C'est où on retrouve en fait de nombreuses nouveautés, mais aussi des classiques, des livres de collection, des zines, mais aussi, il y en a vraiment pour tout le monde. C'est vraiment donc à nouveau à la place Gérald Godin, à la sortie du métro Mont-Royal. Ça va accueillir l'événement du 28 au 31 mai, donc depuis hier jusqu'à dimanche. Il y aura des éditeurs indépendants qui vont côtoyer des auteurs passionnés pour un joyeux festin littéraire. C'est comme ça qu'on en parle dans l'article ce matin. Et ce sera donc dès jeudi, donc depuis hier jusqu'à samedi, de 11h30 à 20h. Et dimanche, ce sera de 11h30 à 17h pour ce marché-là, si ça vous intéresse. Il y a plusieurs autres événements aussi qui vont ponctuer ce Festival de la poésie à Montréal. Comme j'ai mentionné, c'est depuis lundi. Alors, il y en a déjà quelques-uns qui sont terminés, mais c'est jusqu'à dimanche, alors il y a encore moyen d'en profiter. Je vous rappelle que c'est le 16e Festival de la poésie de Montréal et ça a lieu jusqu'à dimanche pour ceux qui seraient intéressés. On ne sait jamais. Peut-être un petit poème en fin de semaine.
Là, je vais m'adresser, Jean-Philippe, aux gens là, qui restent dans l'Est du Québec, qui se disent « Ah, mon Dieu, j'aimerais tellement aller au Festival de poésie de Montréal, mais c'est loin. Qu'est-ce que je vais faire? » Mais à Sherbrooke, il y a le Festival du texte court qui fête ses 10 ans cette année. Et c'est cette fin de semaine aussi, du 28 au 31 mai. Et Karine Tremblay, dans la tribune, nous en parle. Le Festival du texte court à 10 ans, publié le 28 mai dernier. C'est un beau chiffre rond. C'est aussi une étape franchie pour l'annuel rendez-vous qui, pendant 4 jours, fait belle part à la poésie. Pour moi, c'est majeur. Ça souligne le fait que le festival existe encore. C'est un événement qui est passé par toutes sortes d'étapes depuis sa fondation par un collectif d'artistes. Au début, tout le monde y était bénévole. Et en étant maintenant chapeauté par la Maison des arts de la parole, le festival voit sa pérennité assurée. Et on veut l'amener à un nouvel horizon, tout en gardant les micros ouverts à tous. On veut installer davantage le volet professionnel. On souhaite inviter des artistes qui ont du bagage et qui peuvent être une source d'inspiration. Exprime Sophie Jeukens, directrice artistique du Festival et de la Maison des arts de la parole. En cela, la présence de Marc-Antoine Kafaneuf, vendredi, ce soir, donne une bonne idée de ce qui veut devenir l'événement printanier. C'est un artiste et un auteur qui a publié plusieurs recueils au Cartanier. Sa démarche artistique cadre parfaitement avec le thème « Mémoire » retenu cette année. Il travaille beaucoup avec des collages, de la récupération d'images ou des citations. Au festival, il va présenter une conférence poétique à partir d'une série de photos un peu bizarres qu'il a trouvées sur Internet. Un autre fait saillant, la tenue d'une nuit complète de poésie au cours de laquelle plusieurs artistes de la région feront entendre leur voix, dont André Gélineau, Franck Poul, Jean-François Hamel, Marianne Roy et Mathieu Cablet seront notamment de la partie. Des participants d'ailleurs au Québec ne pouvaient pas être là physiquement et ont préparé des prestations vidéo exclusivement pour le festival, tandis que des artistes de la Belgique et de la Suisse feront une performance en direct grâce à Skype. Les activités ont débuté jeudi soir avec la tenue d'un cabaret Waldung rétro au Art Focus. Il y aura plein d'autres activités et écoutez, un passeport donnant accès à toutes les activités du festival est en vente au coût de 25 $. Ça vaut vraiment la peine, c'est vraiment pas cher, mais il est possible d'acheter des billets à la porte. Vous voulez y aller? Donc, c'est le Festival du texte court de Sherbrooke. C'est jusqu'au 31 mai. La programmation complète est au festicourt.org.
On suit dans le domaine des arts visuels avec... on parle d'un artiste, en fait, que je connaissais pas, qui s'appelle Riopelle. Alors, avec un nom comme ça, quelque part, t'as une pression, j'imagine.
Oui, c'est ça.
C'est dans le cahier week-end du Journal de Montréal de samedi passé, le 23 mai. C'est un article de Sandra Godin. Alors, avec un nom comme ça, il semblait prédestiné à avoir une prolifique carrière de peintre. L'artiste Rio, de son nom d'artiste, on va l'appeler comme ça, âgé de seulement 28 ans, vit aujourd'hui de son art sensuel, coloré, et est connu à l'international, mais aussi au Québec, avec ses visages de femmes. C'est vraiment sa marque de commerce. D'ailleurs, plusieurs personnalités possèdent un Rio. Anouk Meunier, Pierre Bruno, il y a aussi Gino Chouinard, Alexandre Despatie, entre autres, possèdent tous un de ces visages de femmes qui font la signature de l'artiste. Il s'est bâti une réputation fort enviable dans le milieu des arts visuels et c'est Sébastien Riopelle, de son vrai nom, qui peint depuis son plus jeune âge. Il est aussi, d'aussi loin qu'il se souvienne, en fait, il a toujours considéré les femmes comme ses muses, bien qu'il peigne aussi des végétaux et des animaux. Alors, on va dans tous les styles.
Oui.
Mais c'est surtout les femmes qui fait vraiment son talent particulier. Il a été élevé par des femmes, il a un respect incroyable envers elles, c'est comme ça qu'il en parle. Il dessinait toujours les visages de ses copines de classe. Il avait le goût d'aller faire une carrière de peintre, mais tout le monde disait que c'était vraiment difficile. Il s'est dit qu'il allait vendre son âme au diable et qu'il allait faire tout ce qu'il fallait pour réussir. Eh bien, finalement, il a réussi, on peut dire ça comme ça. Pas question de faire comme les autres, il n'a pas étudié en art, il ne voulait même pas essayer ce que tout le monde faisait. Il est un gars de défi, et son défi, eh bien, ça fonctionnait. Rio, qui vient tout juste d'acquérir un immense terrain près de sa résidence à Saint-Sulpice, donc tout près de Montréal, pour y construire une galerie d'art d'ici quelques années. Et cette année, Rio a intégré le journal et les pages d'encyclopédie à sa technique. Il a eu l'inspiration parce qu'il connaissait quelqu'un qui vendait ses vieilles encyclopédies. Il a pris les pages, les a appliquées sur ses toiles, il a fait un test et à la page des I, à la définition du mot... à la page des F plutôt, à la définition des mots, du mot femme, on disait qu'elle devait rester à la maison, etc. C'était une mentalité, évidemment, d'il y a 150 ans, c'est plus comme ça aujourd'hui. Mais ces toiles-là représentent la femme du savoir, la femme actuelle avec les pages du passé. Alors c'est très intéressant, je trouve, parce qu'il peint des visages de femmes. La comparaison avec la peintre québécoise Corneau est inévitable. Il s'en fait beaucoup parler. Un visage de femme, c'est commun. Nos deux techniques sont complètement différentes. C'est comme ça qu'il en parle. Il a un côté très mystérieux dans ses œuvres. Il ne peint jamais les yeux. Il laisse parler les lèvres, les mouvements. Il y a une dépersonnalisation pour que ça devienne Madame tout le monde, autrement dit, pour qu'on voit vraiment le visage comme tout le monde. Alors si ça vous intéresse, ce Rio qui expose en ce moment chez Meubles Renault, situé à côté du Stade Olympique, au 2673 avenue Charlemagne. Alors, c'est à côté du stade, si ça vous intéresse, allez jeter un œil.
Si souvent mon cœur, mais tu t'en es manqué. Te disant de toute façon et puis c'est bien trop compliqué. Tu veux comprendre pourquoi elle te quitte la fille. Tu veux comprendre pourquoi elle te quitte la fille. Elle te montre et t'explique doucement en criant. Elle te font un dessin mais jamais tu n'y comprends.
Je vous parlais des femmes, eh bien, on s'en va plutôt en musique avec les filles. C'était Amélie qu'on vient d'écouter. Et on s'en va du côté de l'Égypte maintenant pour rester dans le domaine des arts visuels.
Oui, mais on reste à Québec. Écoutez bien ça, c'est une exposition qui s'appelle l'Égypte magique qui réunit plus de 300 objets couvrant 3000 ans d'histoire. Certains ne font que quelques grammes alors que d'autres pèsent quelques milliers de kilos. L'exposition qui s'ouvre aujourd'hui au Musée de la civilisation s'étend sur environ 1000 mètres carrés. Devant une telle abondance, on s'aperçoit rapidement qu'on n'a pas assez d'yeux pour tout voir. Alors, jeter un œil, c'est pas suffisant. C'est Richard Boisvert qui nous en parle dans Le Soleil, publié le 27 mai. L'Égypte magique, un passé qui nous parle. Michel Gay, c'est l'égyptologue et conseiller pour l'exposition, chargé d'animer la visite de presse mardi, nous avoue d'emblée qu'il est vraiment frustré. Quand je donnais un cours d'introduction à la civilisation égyptienne, je disposais de 45 heures et j'avais l'impression de n'ouvrir que quelques portes. Ce matin, on ne me donne que 30 minutes et ça me terrorise. Le sujet est vaste, en effet. Heureusement, l'image vaut 1000 mots et certains objets exposés sont si remarquables qu'ils en valent facilement 10 de plus, écrit Richard Boisvert. Reste que pour savourer pleinement l'exposition, le visiteur devra calculer 2 bonnes heures. Pour plusieurs raisons, Égypte magique constitue une occasion à ne pas manquer. Comme l'explique M. Gay, la vitrine proposée par le Musée de la civilisation offre une rare chance d'avoir sur un même plancher des pièces qui couvrent l'ensemble de la civilisation égyptienne dans l'espace et le temps. Ces pièces nous parlent parce qu'elles nous ressemblent, fait valoir l'égyptologue. C'est très concret, on n'est pas dans l'ésotérisme, on est face à des problèmes similaires à ceux qu'on vit. Les Égyptiens se posaient les mêmes questions de fond que nous et ils ont les mêmes angoisses existentielles. Ce n'est pas d'hier que l'humain s'interroge sur la maladie, sur l'amour, sur le sens de la vie et de la mort. Pour se prémunir du mal, les Égyptiens porteront différentes formes d'amulettes et de scapulaires. Tout ça n'est pas si loin des colliers en bois de noisetier. Les Égyptiens n'étaient pas non plus insensibles à la mode vestimentaire, comme on peut le constater devant la statue d'un mage portant une chemise et un pagne finement plissé. Un peu plus loin, une longue bague de magicien en forme de serpent fera dire à Michel Gay que ce peuple avait déjà inventé l'art déco. À noter que dans une salle contiguë, on a disposé de quelques objets remarquables tirés notamment de la collection du Musée de la civilisation, dont la fameuse momie de Nen Oumph-F, acheté en 1863 par des prêtres du séminaire de Québec. Juste à côté, on peut voir une statue du même personnage prêtée par le musée de Turin. Pour la première fois de l'histoire moderne, on peut admirer ces deux objets côte à côte. Pour y aller, donc, c'est au Musée de la civilisation à Québec. C'est jusqu'au 3 avril 2016. Vous avez le temps, mais le temps file, on le sait tous. Pour avoir des informations, je vous donne le numéro de téléphone à vos papiers crayons. 418-643-2158. De retour au FTA, il y a un spectacle qui fait bien jaser, qui est un peu la tête d'affiche du festival. Ça s'appelle Toberbach. C'est une mise en scène d'Alain Platel. Et dans Le Devoir, il y a un bon article écrit par Fabien Deléglise, Fragile humanité, publié le 28 mai. Et j'aimerais vous en parler. Ça commence comme suit. Mon père disait, Alain, finalement, les artistes ne font qu'une chose dans leur vie et ils passent leur temps à regarder de tous les côtés. À l'autre bout du fil, depuis quelques minutes, le chorégraphe et metteur en scène belge Alain Platel tente de décortiquer Toberbach, création hybride à cheval entre la danse contemporaine, le théâtre et l'installation artistique. L'œuvre se situe au croisement d'une survie sur les ordures d'une décharge du Brésil et de l'interprétation de Bach par des sourds muets. Tauber, ça veut dire sourd en allemand. Préoccupé mais optimiste, troublé par les exclusions, enragé par le mépris et l'exploitation de l'autre, mais fasciné par l'intelligence humaine qui peut se déployer pour en venir, qui peut se déployer pour en venir à bout, Alain Platel est finalement pris depuis des années entre ces nombreuses polarités, qui finissent par teinter un univers créatif où la condition humaine est souvent dépeinte côté tragédie, avec beaucoup de lumière et autant d'espoir. C'est fatal, dit-il. Je suis très heureux dans la vie, je suis étonné par tout ce que je découvre dans le monde, mais il y a toujours ce truc, on est là pour mourir, et c'est un constat qui peut donner un écho tragique à l'existence. Tout en faisant naître un passage, au passage Tauber-Bach. Chaos intérieur. La charge de cette pièce est née d'un appel à vous le créateur, celui de l'actrice néerlandaise Elsie de Brouw, qui souhaitait bosser avec lui et les danseurs du ballet C de la B, troupe de danse contemporaine que Platel a fondée en 1984. Il en est aujourd'hui le directeur artistique. J'avais pour elle deux éléments. Le documentaire Estamira, datant de 2004, qui suit le quotidien d'une femme de 63 ans, schizophrène et philosophe à 16 heures, vivant dans une décharge publique à Rio de Janeiro, et cette œuvre du Polonais Arthur Zmijewski, qui a demandé à un cœur de sourd d'interpréter Bach comme il l'entendait. Sur scène, cela donne des amas de vêtements dans lesquels les personnages tentent de donner un sens à leur chaos intérieur. Il est question d'exclus, d'environnement hostile, de perceptions dissonantes et de chemins que peut prendre la vie pour composer avec les déterminismes et la fatalité. Préoccupation que Platel déplie inlassablement dans ses œuvres. Ce spectacle, donc, est dans le cadre du Festival Transamérique. C'est au Monument national les 29, 30 et 31 mai, ainsi que le 1er juin au Monument national et à Québec au Grand Théâtre le 3 juin.
On écoute un petit peu de jazz, justement, et parlant de jazz, il y a un film qui sera en grande première au Festival international de jazz de Montréal le 4 juillet prochain. Et pour les amateurs de cinéma et de musique, je pense que je vais parler à vous, et moi, c'est un des films que j'ai envie d'aller voir cet été. C'est le documentaire sur Amy Winehouse, alors le film Amy, tout simplement appelé d'Asif Kapadia, qui retrace la vie de cette regrettée chanteuse, plutôt sera projeté donc au cinéma Impérial, et sortira en salle par la suite le 10 juillet prochain. Alors, c'est un documentaire à voir pour tous ceux qui seraient intéressés.
Une sortie d'album, Quand on s'aime, c'est toujours en jazz. Je suis désolé, mais je ne pouvais pas ne pas en parler. Les standards de jazz en français se faisant quasi inexistants, Thérèse Moncalme fait plaisir à ses fans et à elle-même avec un nouvel album qui sublime dans la langue de Molière ce genre musical. Elle est accompagnée de Gilles Goldston à la réalisation et au piano, son complice depuis l'excellent Here's to You en hommage à Shirley Horn. Alors, ce disque est dans les bacs.
Et une petite idée d'activité familiale pour vous en fin de semaine, en fait pour demain et dimanche, et c'est une quatrième année consécutive qu'aura lieu le Festival BD de Montréal, donc pour la bande dessinée, investira donc l'espace La Fontaine pour offrir une foule d'activités dédiées à la bande dessinée pour les petits et les grands qui pourront profiter de tables rondes, signer leur bande dessinée préférée par des auteurs, de dessiner sous le soleil et découvrir de nombreux exposants. C'est à l'espace La Fontaine. Pour information, c'est au fbdmmontréal.ca. C'est en fin de semaine, donc demain et samedi et dimanche plutôt.
Deux spectacles en terminant. Un spectacle de théâtre, What Happened to the Sneaker? Ça a été la première hier au Prospero. La mise en scène de Nadia Ross, complètement éclatée, met en contexte les Seekers, des chercheurs de sens des années 60 qui s'envolaient en Inde. Ceux-ci sont devenus par la force des choses de simples consommateurs aveuglés devant l'abondance de l'Occident. Qu'est-il donc arrivé? Ben, pour le savoir, c'est au Théâtre Prospero à 19h. Et en danse, il y a le spectacle Hyper Terrestre. Deux hommes sur scène sont en quête d'expression corporelle à travers une chorégraphie qui frôle la sensualité et l'éveil des sens et l'énergie se fait sentir. C'est à l'usine C à 20h. C'est la fin de l'émission déjà. Je remercie Jean-Philippe Vachon à l'animation. Je m'appelle Charles Roy. Mathieu Tessier et Rémi Hermoso à la mise en onde. On se rejoint prochainement, vendredi prochain, pour une autre édition de Kiosque Magazine. Bonne fin de journée.
Bonne fin de journée.